La boîte à thé est un podcast du Discord Le Bocal, dont le but est de parler de game design en jeu de rôle lié à un genre en abordant les tropes au travers des mécaniques et de l'univers. L'objectif, c'est de s'inspirer ou donner des idées à des créateurs de jeux de rôle qui veulent s'inscrire dans un genre spécifique.
Bonjour à tous et à toutes. Donc nous sommes là pour la deuxième boîte à thé. Évoquera le space opéra et le jeu de rôle. Donc on va discuter principalement de comment on peut émuler le genre de space opéra en jeu de rôle. Donc je suis avec John, Carole et Virgile. Moi c'est Larcy, je vais te présenter.
Bonjour.
Et bonjour à tous.
Bonjour.
Donc on va commencer par une petite définition rapide space opera. Donc on a dit ça en trois parties. Donc on parlera d'abord des vaisseaux. On parlera ensuite des planètes et on parlera ensuite de l'autre au sens large, c'est-à-dire l'autre alien. Ça peut être aussi bien les extraterrestres que les pouvoirs psy ou les robots ou voilà. Et puis on terminera après sur une petite partie coup de cœur où chacun d'entre nous essaiera de donner un jeu de rôle qui lui a bien plu dans le genre suscité. Bon, alors d'abord, je vais essayer de définir le space opéra, tâche vaste et compliquée. Ma définition n'a pas vocation à être une définition absolue ni exhaustive. Je donne une définition pour cadrer un peu... Mais j'imagine que ma définition fera certainement débat. Bon, le space opéra, ça fait longtemps que ça existe. J'ai pas eu la date de création exactement. Ça existe déjà à peu près dès le début des années 40. C'est créé, formalisé par deux auteurs, Doc Smith et Edmond Hamilton, créateur du Capitaine Flamme, accessoirement. Le terme était essentiellement péjoratif et c'était pour définir... C'était pour définir un genre en analogie avec le fameux soap opera. Le space opera, c'est globalement une SF à grand spectacle, mettant en scène de vaillants héros et aventuriers de l'espace, devant sauver les armes à la main, le monde, la galaxie ou l'univers. On peut aussi partir sur la définition du fait que ce sont des aventures épiques ou dramatiques se déroulant dans l'espace et dans un cadre géopolitique complexe. En gros, concrètement, c'est de l'aventure dans l'espace, quoi. Voilà. Souvent avec une très grande échelle, galactique et compagnie. Au début, c'était essentiellement un genre qui était très très pulp, assez peu réflexif, qui a souvent été accusé d'ailleurs d'être un peu bébête, on va dire. Hein, voilà. Même s'il y a eu des choses très intéressantes déjà dès les années 40. Hein. Bon, après, il y a aussi, bon, là je vais en parler vite fait parce qu'on en discutera aussi dans le podcast. Il y a aussi le Planète Opéra qui est juste un space opéra qui est centré sur une seule planète. Et son exploration complète par le lecteur, le plus connu étant Dune, voilà, par exemple. Hein, voilà. À partir des années. À partir de 1975, suite à la nouvelle vague de la SF, qui est un mouvement qui a pas mal. Un mouvement de la SF critique, on va dire, qui a pas mal critiqué certains pans de la SF, notamment le Space Opera, en disant que c'était trop simpliste. Il y a un livre qui paraît qui s'appelle La mécanique du Sandor, de M. John Harrison. Et qui est considéré comme le livre fondateur du nouveau space opéra. D'autres personnes placent le jalon à peu près à la création à la sortie de Star Wars, donc en 77. Et en gros, le nouveau space opéra, ça garde la démesure spatiale et temporelle, mais avec des personnages plus développés, une écriture plus élaborée et un degré de réflexion supplémentaire. Voilà. C'est un space opéra classique, mais plus sombre, plus réaliste, mieux écrit. Bon, je veux pas faire de liste des différentes œuvres du space opéra. Mais bon, les plus connus, on va dire Star Wars, Star Trek, The Expanse, Dune, Battlestar Galactica aussi, et puis en jeu de rôle, on discutera pendant le podcast. Voilà. On va commencer donc par les vaisseaux. Donc on va faire trois grandes parties qui peuvent se recouper, hein, voilà. Le vaisseau, évidemment au cœur du space opéra puisque c'est le moyen de transport et pas que par excellence, permet beaucoup de choses. Donc en fait, bon, la première question, c'est comment on crée et comment on gère un vaisseau. Il y a plusieurs approches qui ont été possibles dans l'histoire du jeu de rôle. Soit on le gère comme une ressource, soit on le gère comme un décor, comme un personnage, et comment on s'occupe de sa progression. Voilà. Comment on crée et comment on gère un vaisseau. Merci, Virgile, à ton tour.
Oui, je voulais revenir sur les trois optiques hein, pour le vaisseau. Hein, l'histoire de donc ça peut être une ressource, ça peut être un décor ou ça peut être un personnage. Ressource, ça veut dire que c'est quelque chose que les joueurs vont utiliser. C'est comme ça, un objet. Hein, c'est comme dans les catalogues d'armes dans d'autres jeux. On a des catalogues de vaisseaux hein, dans ce même type là. Ça peut être un décor, c'est-à-dire l'endroit où va se passer l'action, notamment dans les grands vaisseaux. Et ça peut être aussi un personnage. Et ça, cette évolution-là, je trouve qu'on la voit dans l'histoire du jeu de rôle. C'est-à-dire que c'est assez rare de voir considérer le vaisseau comme un personnage, en tout cas d'être traité comme un personnage de jeu de rôle. Dans les jeux de rôle plus anciens, on va plutôt le traiter comme une ressource, avant tout. Après, on a vu apparaître un peu plus la notion de décor, et seulement, c'est assez récent qu'on commence à traiter aussi le vaisseau comme un personnage. Donc voilà, il y a une sorte d'évolution un peu historique là-dedans, je trouve.
Pour moi, par exemple, moi je suis pas, comme je l'avais dit, hein, moi je suis pas un expert du genre. Moi, en général, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a souvent, dans la plupart des jeux auxquels moi je pense, en tout cas, il y a souvent une fiche, littéralement, pour le jeu du vaisseau. Hein, c'est-à-dire qu'on a une fiche pour le personnage et une fiche pour le vaisseau à part. Avec des degrés de localisation. Voilà, par exemple, je regarde Final Frontier, je crois, c'est Final Frontier où il y a une fiche pour le verso avec armement, passerelle, panneau de contrôle ingénierie. En général, la fiche va surtout être divisée en quatre grosses parties. Donc, c'est les armes, la propulsion, les boucliers, les senseurs. Et donc, en fait, en gros, bon, là, j'imagine qu'on est plutôt sur le schéma du personnage, mais aussi de la ressource. Et ça va être géré un peu, justement, comme un personnage, dans le sens où il a une fiche et on va aussi faire progresser le vaisseau. C'est comme ça que c'est géré, par exemple, dans Rogue Trader, il me semble, puisque le vaisseau a une fiche aussi.
Alors, ouais, peut-être pour compléter. Ou pour demander aussi des compléments d'idées à Virgile, de mon côté, j'ai l'impression que ça dépend très clairement aussi de ce qu'on veut apporter en termes de narration, en termes de jeu. Pour moi, en fonction des univers dans lesquels on va jouer, et puis de ce qu'on veut jouer, il va y avoir un vaisseau qui peut devenir effectivement un élément particulièrement important de l'histoire. Et on retrouve ça dans des vieux jeux, je pense au Star Wars D6 par exemple, dans lequel ben c'est quand même chouette d'avoir un perso qui a son vaisseau, et on a tous en tête c'est un jeu avec des pré-tirés, Star Wars D6, et le contrebandier faisait très souvent partie des groupes de personnages parce qu'il avait accès à son vaisseau, et tout de suite on pense à notre Faucon Millennium ou un autre vaisseau. À l'époque, c'était le Faucon Millennium parce que dans les années 80-90, on était encore à une trilogie et puis il n'y a pas forcément énormément d'univers étendu, en tout cas connu par le grand public et par les rôlistes habituels. C'était une ressource, effectivement, parce que c'est un vaisseau qui avait un rôle à jouer, qui nous servait à se déplacer, qui avait ses stats de combat, de propulsion, de fuite. Mais quelque part, ben, un Faucon Millennium, c'est pas un vaisseau comme les autres. C'est le bébé de quelqu'un, il a une histoire, on sait à qui il a appartenu avant, on sait qui bricole dessus, il est bidouillé dans tous les sens. Et on peut retrouver un peu la même chose dans beaucoup d'univers de jeux dans lesquels ben, c'est une base, c'est une maison, c'est un moyen de se déplacer, c'est le moyen de s'en sortir aussi quand il va y avoir des difficultés. Je pense qu'on peut retrouver un peu ça dans Coriolis, par exemple, où vraiment le vaisseau fait aussi partie des éléments de base quand on crée une équipe de perso. On peut retrouver, à mon avis, la même chose dans Final Frontier, comme ça a été dit, dans Firefly, par exemple. Parce que pour moi, du coup, ce vaisseau devient un personnage, mais depuis très longtemps.
Bah, après, c'est vrai que le fait que déjà, rien que le fait qu'il ait une fiche, on peut l'identifier à un personnage, en fait. Hein, voilà. Après, il y a aussi le phénomène que souvent, on a souvent des. Ça, on en parlera aussi dans la partie 2, mais il y a aussi pas mal de catalogues en général dans pas mal de jeux de rôle de types de vaisseaux. Notamment, un truc qui revient souvent, c'est la classe, par exemple. Je sais que dans Rogue Trader, c'est ça, il y a des classes de vaisseaux, notamment. Donc, ouais, moi aussi, je pense qu'il a longtemps été. Alors, en fait, je pense qu'il est un peu les trois à la fois, c'est-à-dire que pour moi, c'est un décor, une ressource et un personnage, quoi, en fait. Mais on peut mettre plus l'accent sur un de ces trucs-là. Je ne sais pas si tous les jeux, par exemple, ont statifié le vaisseau. On met des stats au vaisseau, par exemple. Et dans le sens décor, par exemple, il y a des jeux de rôle où, par exemple, des fois, bah, tu vas passer sur un vaisseau, mais tu ne vas pas le contrôler. Il ne va pas avoir de stats. Voilà, c'est. T'as des vaisseaux qui servent vraiment de décor. Par exemple, je pense au vaisseau de transport. A priori, c'est un transport, quoi. C'est tout. C'est pas. C'est pour t'emmener d'un point A à un point B, quoi.
Alors, je suis d'accord que aujourd'hui, ça peut être les trois, mais en même temps, je pense que Virgile n'a pas tort non plus en disant que à l'époque, dans les années 80-90, c'était quand même plutôt ressources, éventuellement décor, mais principalement ressources. Quand on voit Traveler, par exemple, c'est quand même principalement un moyen de transport pour aller d'un point A à un point B pour la mission ou l'aventure du jour. Et même s'il peut y avoir des statistiques pour la partie combat tactique, etc., j'avais pas l'impression que le vaisseau avait entre guillemets une personnalité si développée que ça, quoi. On peut s'y attacher un peu à force, même dans les vieux jeux, mais l'aspect où il va avoir des traits quasiment, ou voire carrément, suivant les jeux, une personnalité, une intelligence artificielle, par exemple, qui tout de suite va donner du ironiquement, j'ai du corps au vaisseau. J'ai quand même l'impression que c'est un petit peu plus récent, même si je suis d'accord que l'aspect ressources et décors reste en fait, même dans les jeux modernes, ça reste également. Je pense notamment au cas du grand vaisseau à la Star Trek. Bah, en fait, on est presque à la limite de la station spatiale. J'exagère en disant station spatiale, mais de la petite ville, quoi. Donc, c'est aussi un décor où on va pouvoir rencontrer de temps en temps des nouveaux PNJ, des bonhommes en rouge dans les trucs à la Star Trek, des choses comme ça. Je trouve que aujourd'hui on a les trois aspects, mais effectivement j'ai l'impression que dans l'histoire récente du jeu de rôle, on est un petit peu plus sur l'aspect personnage, drama, narration, on va dire. En tout cas, enfin dans ceux qui expérimentent beaucoup de jeux de rôle et qui en parlent sur Internet, on va dire, parce qu'il y a naturellement, il y a sûrement encore des gens qui jouent au vieux Traveler sans changement depuis 1985, je crois que c'est sorti. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un peu des tendances dans le jeu de rôle et qu'aujourd'hui on est un petit peu plus dans le fait de personnaliser, de donner du corps avec intelligence artificielle ou en tout cas des petites idiosyncrasies au vaisseau. Et je laisse la parole à Virgile.
Alors, si je reprends historiquement, c'est vrai que historiquement le premier jeu de SF ça a été Metamorphosis Alpha, qui était avant tout un gigantesque donjon, hein, c'était un vaisseau spatial à explorer. Donc c'était clairement un décor. Mais très vite, on est passé sur la plupart des jeux, comme dans Star Wars par exemple, on avait des vaisseaux qui étaient définis soit par deux choses, soit par des jauges, un peu comme l'équivalent des points de vie, hein, pour par exemple leur coque, soit par des bonus, hein, quand on va les conduire, on va les piloter, on va avoir un bonus par exemple pour les manœuvrer. Donc on va avoir souvent ces deux types de mécanismes qui vont être utilisés pour définir un vaisseau. En plus, ça va aller très très loin. Par exemple, dans GURPS Espace, on a des choses, on a toute une procédure assez complexe. Hein. Il y a des types de vaisseaux. On choisit d'abord le type de coque. On choisit le type, donc la taille du vaisseau. On va mettre certains senseurs dessus. On va déterminer comment sont structurés ces espaces intérieurs. On va estimer le poids du vaisseau. Et donc tout ça va permettre de calculer des éléments, des caractéristiques qui vont pouvoir intervenir en jeu. Donc là, on est vraiment dans une description très technique du vaisseau. Hein. On a vraiment quelque chose de... c'est pour ça que je dis que le vaisseau est une ressource. Après, il y a une évolution dans le sens où, dans ces jeux-là, on avait aussi des plans du vaisseau. Les plans, par exemple, plan la première mouture de Star Wars, on avait le plan du Faucon Millennium. Ça permettait de donner aussi une sorte de... C'était le plan un peu de la résidence des personnages. C'est un peu l'endroit où vous pouvez se retrouver avec les espaces de détente, l'espace de pilotage, l'espace de combat, etc. Mais ça donnait un endroit où les personnages se rassemblaient et le plan permettait de structurer ça. Après, il y a eu des jeux comme, effectivement, par exemple Star Trek, mais Battlestar Galactica, qui, lui, se déroule dans un immense vaisseau. On n'a pas forcément de plan, là, du vaisseau. Là, on va avoir une description en texte avec tous les différents endroits du vaisseau, toutes les zones du vaisseau, toutes les différentes passerelles qui existent pour finalement faire vivre ce vaisseau un peu comme une ville. Hein. On va avoir l'équivalent des descriptions qu'on a dans d'autres jeux sur les villes. On va avoir ce type de choses. On a même aussi, dans certains jeux, par exemple, dans le métal froid des anneaux de Cerbère, on va avoir une façon de générer sa station orbitale avec plein de tables aléatoires qui vont permettre de déterminer un peu comment elle se présente. Et puis, on va avoir une description générique, hein, des coursives, de la zone qui permet de faire pousser les ressources pour manger, de la zone de détente, etc. On va avoir des grandes descriptions génériques. Donc ça, c'est l'aspect décor. Le troisième aspect, donc l'aspect personnage, pourquoi je l'ajoute seulement à la fin, c'est parce qu'on a là des vaisseaux qui vont avoir des traits qui ne sont pas que des traits techniques. Par exemple, si je prends le cas de Firefly, on peut avoir un vaisseau qui a une mauvaise réputation, qui est un délice pour le contrebandier, qui a été gagné au jeu. Donc ça, ce sont des traits caractéristiques du vaisseau qui vont aussi être convoqués pendant le jeu, mais on est loin juste d'un aspect technique. On va doter un peu le vaisseau d'une personnalité. Le vaisseau, il peut être aussi avoir un trait un peu type Frankenstein. Il a été conçu avec des briques et des brocs de différents vaisseaux. Tout de suite, ça donne une autre ambiance aux chiffres, aux caractéristiques qui vont définir le vaisseau. Et pareil, dans les jeux comme du type Fate, hein, on va avoir des aspects qui vont aussi caractériser le vaisseau. Et là, on va plus seulement avoir une mesure de sa coque, de ses senseurs, de ses boucliers, de sa propulsion, de son type de propulsion. On va avoir une personnalité qui va se dessiner dans le vaisseau. Et après, il y a certains jeux aussi qui mettent en jeu des vaisseaux qui sont sentients, qui sont conscients. Hein, je pense, là moi, l'exemple que j'ai en tête, c'est le module Warp Shell pour Index Card RPG, où les joueurs sont rassemblés, voyagent à travers un Warp Shell, qui est justement un vaisseau vivant, et qui en fait les amène dans les endroits intéressants où ils vont avoir des aventures à vivre. Voilà, c'est un peu l'excuse pour rassembler les personnages, et il fait partie un peu de l'équipe des personnages aussi, on peut communiquer aussi avec lui, quoi. Donc voilà, c'est dans ce sens-là où je dis qu'il y a une évolution entre le vaisseau, c'est une ressource, on va l'utiliser pour voyager, on va l'utiliser pour combattre, avec ses caractéristiques, ses différentes loges. Ensuite, on a eu cet aspect décor, et enfin, on a cet aspect, le vaisseau, avec son caractère un peu plus personnalisé.
Bon, en fait, c'est ça, en gros, soit effectivement, ça va être ça peut être des statistiques assez, des caracs assez, assez techniques, mais ça peut aussi être, comme tu disais, une espèce de personnalité. Voilà, je regarde que dans la Zone Feeling, par exemple, quand on crée le vaisseau, on définit deux forces, voilà, et un problème aussi. Donc le vaisseau a un problème. Alors, je pense que c'est lié à la mécanique du jeu. Ouais, donc en fait, comme quoi le vaisseau peut avoir des traits aussi, quoi. Des traits, comme si c'était des traits de personnalité, quoi, finalement. Après, je vois quand même qu'il y a beaucoup de... Ouais, après, par exemple, le Battlestar Galactica, il a carrément des compétences, je vois. armes lourdes, ingénierie, perception. Le vaisseau a une perception. C'est amusant. Et puis, il a aussi des attributs comme ceux des personnages, j'imagine. Donc, c'est assez marrant. On peut passer à la question 2, je pense. Alors, comment on gère le combat spatial? Alors, le combat spatial, en général, moi, j'ai, en fait, c'est surtout. C'est comme tous les combats, c'est assez lent, finalement, la plupart du temps. En fait, on va surtout gérer ça, j'ai l'impression, avec les rôles d'équipage. Donc, il va y avoir généralement un pilote, un canonnier, quelqu'un qui va s'occuper du hacking, on va dire, en quelque sorte, parfois. Voilà. C'est-à-dire d'essayer de hacker le vaisseau d'en face. Quelqu'un qui va s'occuper de réparer le vaisseau aussi, avec le mécanicien, en cours de combat. Puis ça va rapporter aussi, j'imagine, souvent en fonction du personnage et de sa fiche, ça va remporter plus ou moins de points au vaisseau, finalement, pour le combat. Et puis les vaisseaux vont aussi avoir des armes, en général. Des armes, par exemple, dans Star Wars D6, il y a des armes qui font un certain nombre de dégâts. Voilà, par exemple, les canons laser font 5D. Les torpilles à protons font 9D. Voilà, donc c'est voilà, ça peut être sous cette forme-là aussi. Tout se passer par le biais de l'équipage. Ou sinon, on fait des combats stat contre stat avec basique, hein, c'est-à-dire des dommages et puis le bouclier de l'armure ou les points de santé du vaisseau. Parce que le vaisseau a des points de santé. Voilà.
Bah, sur le combat spatial, je pense que la problématique en game design, c'est comment faire pour que tout le monde s'amuse durant cette phase-là. Donc c'est pour ça qu'effectivement, c'est souvent divisé en rôles. Alors, le jeu, pour l'instant, un jeu qui, je trouve, réussit assez bien l'exercice, c'est Final Frontier, puisqu'en fait, il s'arrange pour donner... Il y a cinq phases de combat, et à chaque phase, chaque poste va pouvoir agir. Il y a une phase de tactique, où c'est le capitaine qui va définir la tactique qui va être mise en œuvre. Il va faire certains choix. Ensuite, il y a le pilote qui va faire la phase de manœuvre. Pareil, il va aussi faire des choix qui vont dépendre aussi de ce qui s'est passé précédemment. La phase de tir, donc là, c'est le chef de sécurité qui va s'en occuper. La phase d'ingénierie, où on va répartir, on va pouvoir faire passer certaines jauges à une autre, quoi. On va pouvoir réajuster en fait, les différents paramètres du vaisseau. Et la phase de médico-process, où le médecin va pouvoir s'occuper du bien-être de l'équipage, de ceux qui ont été blessés. Donc là, ça permet que tous les joueurs puissent agir. Et en plus, la petite cerise sur le gâteau là-dessus, c'est que le jeu ne va pas seulement s'intéresser aux dégâts structurels du vaisseau, mais aussi à l'aspect narratif. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des dommages, on a un effet technique qui va être appliqué, mais un effet narratif. Par exemple, la passerelle est violemment secouée, donc là tous les joueurs doivent se contorsionner convulsivement sur leur chaise. Plusieurs bonhommes en rouge sont éjectés de leur console, s'écrasent au sol hurlant, le coefficient d'équipage baisse d'un point. Ou alors, il y a un bonhomme en rouge qui perd son calme et qui court sur la passerelle en hurlant « On est perdu, on va tous mourir, pire s'il nous capture, impossible de le raisonner ». Donc voilà, le jeu nous propose, par exemple quand la passerelle est touchée, différentes propositions narratives qui permettent de revenir un petit peu à la fiction et d'habiller un peu le combat et pas que ce soit seulement un échange de jets de dés.
Oui, je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit. Effectivement, Final Frontier le fait très bien et avec un système qui est pas trop lourd et avec de la narration. Coriolis le fait aussi des différents rôles. Par contre, c'est plus directement tactique et technique. Et je trouve que du coup, ça rend les combats spatiaux un petit peu longs. Donc, ça peut suivant... Enfin, après, ça, s'il y a des amateurs de côté un petit peu battle map ou d'aspect plus technique, ça peut plaire, mais j'avoue que je trouve que de ce point de vue-là, Final Frontier le réussit mieux. Et les rôles dans Coriolis sont limités à 4, donc si on a plus de 4 PJ, les 5e ou 6e font un peu de la figuration ou aident un des autres rôles sans en faire plus. Donc l'idée de rôle est bien, mais il faut effectivement bien réfléchir les rôles pour que chaque rôle soit vraiment intéressant. Et voir aussi à quel point on veut aller du côté technique ou plutôt du côté un peu plus léger, plus narration pour que ça ne dure pas trop longtemps ou si c'est au contraire on considère que c'est vraiment un coin important du jeu, comment rendre ça intéressant.
Oui, je trouve que ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est finalement comme c'est des combats en trois dimensions. Il y a assez peu de cartes qui sont utilisées, je trouve. Il y a assez peu de battle. J'ai vu assez peu de battle maps dans les jeux parce que c'est pas évident de gérer aussi les différents niveaux d'interaction. Donc, contrairement à des jeux où par exemple il va y avoir des combats maritimes où parfois on va nous proposer d'utiliser des cartes. J'ai vu peu de propositions dans les jeux qui permettent de gérer le combat avec une carte. On s'en tire souvent plutôt à une appréciation plus globale, puisque ça devient difficile de situer vraiment tous les vaisseaux, tous les protagonistes dans l'espace, vu l'aspect 3D du combat spatial.
Après, je pense que tu peux peut-être avoir une map pour le vaisseau en lui-même, quoi. Mais oui, pour le coup, c'est-à-dire de dire, ouais, il y a telle zone qui prend des dommages et tout, pour visualiser les zones qui... Mais effectivement, tu peux pas montrer l'étendue du combat. Je pense pas non plus que c'est... Je pense que c'est compliqué, en effet, ouais.
Alors ça peut être fait, mais en trichant un petit peu, il y a des jeux qui ont des zones d'action. En fait, on est à portée, on est hors de portée, on est à portée longue, on est au contact. Ça joue un petit peu comme ça. Il y a ça notamment dans Metal Adventures, si je ne dis pas de bêtises, dans lequel on joue des pirates de l'espace. J'ai un petit faible pour les idées aussi qui sont proposées dans Tachyon Squadron, c'est du Fate, dans lequel on joue des équipes de pilotes de chasseurs. Et donc c'est vraiment du dogfight. Voilà, on est dans notre petit chasseur et puis on poursuit les autres. Et il y a un système à ce moment-là pour savoir qui est devant, qui est derrière, qui a l'avantage sur l'autre dans le combat aérien. Effectivement, il y a peu de jeux dans lesquels c'est facile à rendre en 3D, mais de la même façon qu'on a très peu de jeux qui proposeraient de faire des combats aériens de qualité. C'est dur de trouver quelque chose qui permet de bien comprendre en trois dimensions où serait l'autre, quel est l'avantage d'être au-dessus, en dessous. Je pense que ouais, Tachyon Squadron propose tu es devant et donc tu es dans les viseurs de celui qui est derrière toi, ou tu es derrière et tu as l'autre dans ton viseur. Quoi. Ça, c'est une possibilité qui existe déjà. Mais ça marche quand on fait vraiment du combat avec plein de petits vaisseaux et pas pour du one contre one. Gérer tout un équipage contre un autre véhicule. Même s'il le propose du coup aussi, comment ça se passerait si nos cinq chasseurs attaquent une frégate, par exemple.
Bon, je pense que c'est ce qui est important, surtout quand on essaie de réfléchir à comment on fait un combat en vaisseau pirate, c'est de réfléchir en termes d'ampleur. C'était un peu ce que disait Virgile tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir des effets sur la passerelle, sur les moteurs, sur les générateurs, sur le bouclier, sur les antennes de communication. Il y a aussi l'idée qu'en général, bon, bah, il y a plusieurs armes. C'est rare qu'on ait qu'un seul canon. Voilà, donc il faut aussi gérer le nombre d'armes du vaisseau. Là, moi, je me place vraiment sur une perspective d'un gros vaisseau. Hein. C'est-à-dire que je parle pas spécialement du combat chasseur-chasseur, parce que là, je pense que c'est plus simple si on arrive du combat avec les chasseurs. Mais s'il y a des gros vaisseaux, oui, il y a une ampleur à prendre en compte et à représenter, en fait. Hein. C'est-à-dire que, comme je disais, Virgile en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que sur les effets sur les différentes parties du vaisseau, sur le nombre de canons qu'ils peuvent tirer, sur le nombre d'armes, sur les dommages aussi que va avoir le vaisseau, voilà, et qui peuvent ne pas toucher d'ailleurs les PJ, hein, parce que ça peut être par exemple, il y a une section de l'espace qui est dépressurisée, il y a une partie du vaisseau qui se casse et qui touche pas, parce que bon, en général, moi dans ma tête, j'avais plutôt l'impression que les personnages étaient plutôt basés sur la passerelle en général, parce que c'est mieux qu'ils soient tous au même endroit, mais ils peuvent aussi être dispersés un peu partout dans le vaisseau et parler par vox ou par communication. Donc voilà, je pense que ça, c'est un des aspects importants à prendre en compte quand on fait du combat spatial, c'est vraiment de montrer l'ampleur du combat, quoi. La diversité des conséquences qu'il va avoir, en tout cas.
Du coup, je vais essayer de raccrocher avec ce qu'on disait aussi un petit peu avant. Le combat spatial, on peut le voir comme une grande scène de bataille dans n'importe quel jeu MedFan, par exemple. Quelles seraient les opportunités pour les joueurs? Une opportunité héroïque, classique, qui va pouvoir sauver, défendre quelque chose, empêcher un circuit indispensable d'être détruit, faire le coup fatal contre tel ou tel adversaire. Faut essayer de le voir comme ça, à mon avis. Et après, qu'est-ce que ça va devenir pour notre vaisseau? Si effectivement c'est un décor, il va y avoir des explosions à droite à gauche, de la fumée, des dépressurisations. Si c'est une ressource, les stats vont évoluer. Mais si c'est un personnage, je pense que c'est aussi super chouette que derrière, il en reste quelque chose, qu'on en ait des traces, qu'on n'oublie pas les XP d'action de notre vaisseau qui soit pourra en subir les conséquences et avoir une réputation ou des failles sur sa fiche, ou au contraire qui va pouvoir gagner en qualité, en réputation et dans le fait que peut-être qu'on n'osera pas s'en prendre à lui par la suite. C'est pas la même chose de voir arriver le vaisseau d'Albator face à soi ou un autre, parce que on se dit ah mince, ils ont gagné tous leurs combats jusqu'à maintenant et ils sont connus, et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là?
Ouais, complètement, ouais. En fait, je pense que ça, c'est un peu une mécanique finalement de cicatrices, quoi. C'est-à-dire que le vaisseau a des cicatrices, ça peut être des nouveaux traits, ça peut être des dommages, une réputation. Je crois, par exemple, je crois que dans Firefly, il y a ça, par exemple, où il y a des traits, et puis ça peut être aussi le cas dans Fate, typiquement, où il y a des traits, donc par exemple, ça peut être vétéran, ou je sais pas. Il y a aussi autre chose, c'est que, je pense que c'est comme dans tout, hein, c'est-à-dire que comme c'est un combat, il faut gérer les retombées, mais j'ai le sentiment que les retombées peuvent être parfois plus importantes, parce que je simplifie à l'extrême, évidemment, hein, mais après un combat avec des PJ, en général, qu'est-ce qui va se passer? On va soigner, on va looter, voilà, et c'est réglé, quoi. Alors que le vaisseau, tu peux pas lui filer une potion de soin, quoi, au vaisseau, quoi. Il faut aller rejoindre une station spatiale, il faut trouver du matériel pour le réparer, il faut trouver des pièces, il faut déjà ça peut justifier même d'un scénario entier, c'est-à-dire le vaisseau a été lourdement abîmé, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Il faut trouver du matériel, comme je disais, pour remplacer les pièces, il faut aller ailleurs. Il faut aussi que le vaisseau se repose, hein, comme un personnage, finalement, parce qu'il ne peut pas repartir directement au combat. Repose entre guillemets, parce que le vaisseau ne va pas se reposer, à part si c'est un vaisseau intelligent. Ça peut aussi être intéressant, d'ailleurs. Hein. Dire, par exemple, le vaisseau a une IA, l'IA est un peu traumatisée par le combat, comment vous allez gérer ça, quoi? Donc, ouais, il y a un côté, en gros, où pour moi, les conséquences d'un combat spatial sont plus compliquées et plus longues à gérer qu'un combat classique entre personnages, quoi. Donc oui, maintenant on va passer aux voyages spatiaux. Donc comment sont gérés les voyages spatiaux? Moi, pour moi, c'est vraiment un truc qui est au cœur du space opéra, hein. C'est clairement le voyage. C'est un jeu qui est basé, on le disait, sur l'aventure. Et le voyage est une aventure. Il peut se passer plein de choses, on peut se faire attaquer par des pirates, on peut tomber. Alors le coup classique, qu'on voit plein de fois, c'est aussi la pluie de météorites. Voilà. Ou les vents solaires qui vont abîmer le vaisseau. Il y a la notion aussi de dire quel type de voyage on favorise. C'est-à-dire qu'en général, il va y avoir deux grands types de voyages, c'est-à-dire le voyage intersecteur, intersystème. C'est-à-dire le voyage supraluminique, je crois que ça s'appelle comme ça. Et puis en général, on va aussi avoir un autre type de voyage. Ça, c'est vraiment un gros trope pour moi du jeu de rôle Space Opera, c'est-à-dire qu'il va y avoir un second espace, un espace parallèle presque. Ça peut être typiquement dans 40K, c'est le warp, qui est extrêmement dangereux. Donc chaque voyage dans 40K est porte des enjeux, puisque on rentre dans une dimension qui est littéralement peuplée par des démons. Ça peut être l'hyperespace de Star Wars. Là, l'hyperespace de Star Wars me paraît plus serein, parce que finalement, il ne peut pas nous arriver grand chose en hyperespace, quoi. Donc, ça va plutôt être un temps d'attente, je pense, où on va attendre que le voyage se termine, quoi, en jouant aux cartes, ou au Déjalisk, le jeu holographique, là. Le voyage n'est pas systématiquement un enjeu, mais moi, je trouve ça intéressant d'en faire un, quand même, malgré tout, de dire, qu'est-ce qui se passe pendant le voyage? et que ce soit un élément de game feel à part entière, quoi. Enfin, en somme, que le voyage ait une importance.
Moi, je trouve que, en tout cas, dans les jeux là, que j'ai lus là-dessus, il y a assez peu de propositions de game design sur le voyage. Ça fait que finalement, le voyage, surtout le voyage hyper luminique ou hyper espace, on a l'impression qu'il est là plutôt pour permettre aux joueurs de passer d'un environnement à un autre, d'un système galactique, d'un ensemble politique à un autre assez rapidement, donc pour qu'il permette de justifier justement qu'il puisse couvrir de très grandes distances sans pour autant passer des années et des années à voyager. Voilà, on a un espace qui est contracté et qui permet de passer d'un décor finalement à l'autre. Et je trouve qu'il y a peu de jeux qui proposent des mécaniques pour gérer justement les dangers de ce type de voyage. Parfois, souvent, ce qu'on demande, c'est un jet à faire, par exemple, quand on est pressé, quand on veut échapper d'un combat, par exemple, qu'on veut s'enfuir, et il y a le temps de faire le calcul pour le voyage hyperspatial. Donc là, il y a un enjeu qui va avoir lieu. Mais le voyage en lui-même, il y a très peu d'enjeux, il y a très peu de propositions. Un peu, là, je vois dans Impulse Drive, il y a un jet à faire. Et en gros, si on réussit, on parvient à destination sans complication. Avec un résultat intermédiaire, on perd du temps, on loupe certains événements. Et sur un 6-, non seulement on perd du temps, mais l'équipage subit un stress. Voilà, c'est à peu près tout ce qui est proposé, par exemple, dans ce jeu-là. Voilà.
Et bien justement, je rebondis sur ce que disait Virgile. Je crois que dans Star Wars, il y a quand même une compétence exprès pour ça, hein, qui s'appelle l'astrogation. Et l'astrogation, il me semble que tu peux littéralement pas faire de jet de quand tu veux passer dans l'hyperespace sans le jet d'astrogation. Le jet d'astrogation, il te permet de, comme disait Virgile, de faire des calculs pour où tu vas arriver. Et je crois que tu peux quand même le faire sans jet d'astrogation, mais c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire que bon, ça va quand même. Je sais plus ce que ça va faire dans Star Wars, mais il me semblait, moi, quand j'avais joué, que tout le monde, il fallait que quelqu'un ait au moins un point en astrogation, quoi. C'est-à-dire que bon, voilà, c'est le calcul. Oui, ça va être géré par un GD en mode je fais mes calculs pour savoir où est-ce qu'on va tomber. Dans Warhammer 40 000, Rock Trader, t'as quand même une classe entière de personnages qui est dédiée à ça uniquement. C'est le navigateur. Le navigateur, c'est un genre de mutant qui peut voir les courants du warp. Donc le warp, une dimension, comme je le disais, une dimension hostile finalement. Et lui, il a des pouvoirs qui peuvent s'utiliser pendant qu'il est dans le warp, quoi. Donc, a priori, là, c'est différent parce que là, il y a littéralement une classe entière qui est dédiée à ça, quoi. C'est-à-dire que, bon, c'est le navigateur. Alors, évidemment, le navigateur, ça rend d'autres choses, puisqu'il peut aussi accompagner l'équipage du Rogue Trader, le libre marchand, pardon, à terre. Mais bon, voilà, il y a quand même une notion un peu de. Donc, oui, alors, mais je suis assez d'accord avec Virgile. Hein, c'est-à-dire que le voyage, j'ai l'impression que c'est souvent une période transitoire qui va même être assez peu jouée, finalement. Sauf si on est en supraluminique, auquel cas, là, comme je disais, il peut y avoir des attaques, des courses-poursuites. Je ne sais pas comment c'est géré, je ne sais pas s'il y a eu un jeu de rôle Mass Effect, mais dans Mass Effect, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on va très très vite près d'un grand portail et on saute, quoi. On saute littéralement, on se téléporte, quoi. Donc en fait, là, il n'y a pas de voyage, quoi. Il y a juste, on se téléporte et il y a peu de chances qu'il se passe quelque chose de mal, finalement, parce que c'est juste. Une téléportation, quoi.
Eh bien, ça tombe bien parce que j'allais justement parler des portails qui peuvent, tu as mentionné le warp qui peut avoir des effets, mais dans Coriolis notamment ou dans Fading Sense, même si c'est moins mis en avant, les portails qui existent dans ces jeux peuvent avoir des effets dangereux si on n'a pas des inhibiteurs ou des personnes qui permettent de limiter les effets mentaux que ce type de voyage peut avoir. Et dans certains scénarios ou autres, il va se passer des choses liées à ces portails. Il y a dans Coriolis un espace lié à ces portails, des enjeux. Donc, c'est pas forcément au niveau mécanique, mais en tout cas, dans Coriolis, et il me semble aussi dans Fading Sense, même si c'est dans une moindre mesure, c'est plus en arrière-plan, c'est quelque chose qui va jouer. Je pense également dans ce trope-là, dans une certaine mesure, il y a Stargate aussi, qui finalement est aussi un jeu de rôle de space opéra, en tout cas sur la fin de la période de la série. même si on voyage quasiment pas en vaisseau, on voyage avec ces portails de planète en planète. Et parfois, les fameuses Stargate, les portes des étoiles, il va y avoir des effets qui vont créer des choses. Il y a même une fois où il y a eu du voyage dans le temps, il y a des choses inattendues. Ça peut être quelque chose qui va perturber le voyage ou créer des circonstances un peu extraordinaires. Après, c'est effectivement là où je vous rejoins, toi et Virgile, c'est que souvent, c'est pas une table ou quelque chose comme ça, c'est plus en mode narratif, quoi. Un peu comme dans un vaisseau, il va y avoir la rencontre avec un astéroïde, avec les pirates, avec la créature extraterrestre bizarre et immense. Mais les portails, là, sont vraiment typés comme des endroits particulièrement dangereux, avec des enjeux un petit peu comme le warp. Et pas juste comme une salle d'attente en attendant la fin du voyage, quoi.
Ouais, du coup, pour moi, les voyages, c'est en fait ce qui va déterminer le cadre de notre jeu, dans le cas du jeu de rôle, Space Opera, parce que on peut avoir des vaisseaux qui vont pouvoir aller très très loin, mais s'il faut quand même 2 ans pour faire le trajet, peut-être que c'est pas à cette échelle-là qu'on a envie de jouer, parce qu'on n'a pas envie que nos personnages vieillissent à cette vitesse-là, ou qu'il ne se passe rien pendant d'aussi longues ellipses. Je peux dire qu'on est cryogénisé et puis qu'on est en hibernation ou autre pendant 25 ans et qu'ensuite on va sortir pour découvrir une autre planète, c'est pas forcément ce qu'on rêve en tant que joueur de jeu de rôle. En tout cas, on a envie qu'il se passe des choses plus fréquemment, à mon avis. Du coup, est-ce qu'on voyage au sein d'un système restreint dans lequel on peut connaître à peu près tous les éléments, toutes les planètes, tous les lieux, avec des routes spatiales qui sont bien délimitées, sur lesquelles on peut circuler à plus ou moins grande vitesse, qui vont être contrôlées par une autorité ou par, au contraire, être la source de brigandage. Il y a tout ce qui peut se passer aussi au départ et aux arrivées. Comment est-ce que je pars? Est-ce que je peux partir? Est-ce que je pars en étant poursuivi? Est-ce que je pars en toute liberté? Quand j'arrive, est-ce qu'il y a un système de douane, de contrôle qui va exister ou pas? Et voilà. Ouais, la durée des trajets, je pense qu'elle a aussi un rôle important dans ce qu'on veut mettre en place et puis dans les possibilités d'intervention. Est-ce que je peux avoir des secours qui vont arriver dans quelques minutes ou dans quelques jours ou dans quelques mois? C'est pas du tout la même situation derrière, les mêmes enjeux. Si on a un vaisseau qui a subi des dommages, si on se retrouve face à des adversaires en trop grand nombre, si j'ai été prisonnier ou capturé, à quelle vitesse aussi les informations et les messages pourraient passer? Parce que il y a beaucoup d'idées sur le transport, mais les communications à travers un vaste univers. C'est pareil, normalement, les ondes radio, télé ou autres ne se dépassent pas plus vite que la lumière. Et donc, passer un coup de fil avec quelqu'un autour d'une autre étoile, ça devrait prendre des années pour avoir une réponse de sa part.
Je pense aussi à deux choses. Moi, ce que j'ai vécu, je pense à plusieurs éléments. Alors, moi, je vais sortir un peu du JDR, mais je pense que ça peut complètement être appliqué en JDR malgré tout. Je pense à l'espace d'un an de Becky Chambers où en gros l'histoire c'est tout simplement un voyage qui dure un an. Donc en fait pour moi ça peut tout à fait être transposé en campagne par exemple, de dire en fait pendant un an votre campagne ça va être juste un voyage d'un point A à un point B, c'est-à-dire le voyage en tant que motivation narrative, c'est-à-dire de dire en fait votre campagne c'est juste de voyager à tel endroit en fait. Et ce qui va vous arriver pendant votre voyage, ça va être la campagne. Ça peut être ça. Je pense aussi à... Alors, pour le coup, c'est dans Battlestar Galactica, mais dans Battlestar Galactica, à un moment donné, ils ont un problème dans l'épisode 2 ou 3, je crois, parce que les Cylons peuvent les retrouver. Donc, ils sont obligés de sauter toutes les 30 minutes. Voilà. Ce qui a des effets sur le sommeil, parce qu'ils sont obligés de se droguer à coups de stimulants. Ce qui a des effets aussi sur le stress, en fait, finalement. Et je vais boucler un peu là-dessus en parlant qu'en fait, le voyage peut avoir des effets, un peu comme le disait Carole, sur la santé physique et morale. C'est-à-dire que ça peut être aussi, par exemple, dans le JDR Alien, il y a une maladie de la cryogénie. Il y a une maladie de la cryogénie, si on passe trop de temps en cryo, ou, bah, à un moment donné, on commence à développer des psychoses, quoi. Il me semble que c'est ça. Il y a des règles pour encadrer, dans mon souvenir, il y a une espèce de maladie de la cryo. Dans The Expanse, je ne sais pas si c'est présent dans le jeu de rôle, mais en tout cas, le voyage, l'accélération spatiale est quand même assez difficile, hein. Il faut prendre un truc qu'ils appellent le jus dans la série. C'est-à-dire que c'est un espèce de truc, un espèce de cocktail de stimulants, et ils peuvent en mourir. Parce qu'il y a quand même de la dépressurisation, il y a quand même un, je sais plus comment ça s'appelle, il y a quand même un, l'accélération en G, là, je sais plus quel est le terme. Mais, donc en fait, ça a des effets, le voyage a des effets sur le corps. Sur le corps, mais aussi, ça peut aussi avoir des effets sur l'esprit. L'autre aspect auquel je pense, c'est, Carole en a parlé dans le chat, c'est, le réveil de cryogénie. Moi, j'ai vécu ça, par exemple, à nombreuses reprises dans les scénarios de Space Opera. C'est-à-dire, en fait, on était en cryo, on se réveille, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a des alarmes dans le vaisseau, évidemment, il y a des problèmes, l'équipage, il y a des gens qui sont morts au sol, qui sont en sang. Il y a ça, par exemple, dans un jeu qui s'appelle Abandon All Hope, où on est dans un espèce de gigantesque vaisseau prison, qui, pour le coup, est en voyage perpétuel, hein, parce que c'est un vaisseau prison. Et en fait, à un moment donné, dans Abandon All Hope, il va y avoir des attaques de démons, parce qu'on est un peu comme dans... comment ça s'appelle ce truc, Event Horizon, on arrive dans des dimensions démoniaques. Donc en fait, ça va avoir une conséquence, parce que le passage par lequel on passe, il y a des démons. Donc en fait, ça commence à être le bazar à bord, comme on peut bien l'imaginer. Et je reboucle un peu sur l'effet mental de du voyage. Ben là, typiquement, c'est un effet mental, puisque les PJ commencent à développer des psychoses, quoi. Donc effectivement, là, je parle effectivement que le voyage peut avoir un effet, malgré tout, sur la santé des PJ, par exemple. C'est ça que je voulais aborder principalement. John nous cite un jeu super qu'il a créé d'ailleurs, qui se joue avec des dominos, qui s'appelle La Nef, un vaisseau de colons, avec des millions de colons, géré par Unia. Et le but du jeu est de que le voyage se passe bien. A priori, John, tu me corrigeras si je dis pas de bêtises, mais voilà. Et parce qu'on joue l'IA, il me semble, on joue l'IA et l'IA doit faire en sorte que le voyage se passe bien.
Oui, je voulais rajouter aussi un point sur le carburant au niveau du voyage. Hein, il y a parfois des jeux qui intègrent cette dimension-là. C'est surtout intéressant quand on joue des groupes de personnages qui sont indépendants, qui sont autonomes, par exemple, soit des pirates ou des contrebandiers ou des marchands intergalactiques. La question du carburant, elle pose la question des ressources, comment les personnages vont financer leur voyage, et donc c'est ça qui peut aussi les amener à accepter des missions, à accepter, par exemple, c'est aussi s'il y a des réparations à faire sur le vaisseau, souvent le vaisseau, il est présenté comme un gouffre financier à réparer. Et donc, comment on se procure les pièces, comment on se procure le carburant. Et donc, voilà, tout ça donne des excuses aussi pour accepter des missions, pour entrer dans l'aventure et prendre des risques, finalement.
Oui, ça peut être une motivation. C'est-à-dire, effectivement, le carburant, les ressources, quand on gère le vaisseau en termes de ressources, les ressources du vaisseau peuvent être une motivation à des scénarios, à des campagnes, parce qu'on a besoin d'un vaisseau pour se déplacer, mais en même temps, il faut aussi l'alimenter. Je pense à ça notamment, là c'est un peu différent, mais dans Firefly, par exemple, et c'est le cas dans Alien aussi, dans le JDR, hein, je parle, les personnages enchaînent les missions parce qu'il faut bien payer le vaisseau, en fait. Il faut payer le vaisseau, en fait. Donc, et puis, il faut bien vivre, en fait. Donc, en fait, ça, c'est un autre trope du space opéra en JDR, c'est-à-dire qu'on va se retrouver pas mal dans des jeux à mission, finalement, où on va enchaîner les missions. C'était le cas dans Star Trek aussi. Ça, j'en parle là maintenant parce qu'on n'a pas de partie dédiée à ça. Mais dans Star Trek, en fait, ils enchaînent les missions puisque le format sériel de la série fait que ils arrivent sur une planète, il leur arrive des trucs, ils partent en voyage, ils tombent sur Q qui leur fait une blague, voilà. Mais j'en parle là rapidement parce que c'est pas vraiment dans le thème, mais
je voulais juste ajouter une petite pub pour des plans de vaisseaux, les Starship Géomorphes. C'est des plans gratuits qui ont été faits pour Traveler et c'est des plans modulables. Donc, c'est des espèces de tuiles qu'on peut assembler pour constituer un vaisseau. Et donc, ça peut donner des idées, même si on ne les utilise pas en tant que tels, pour penser en fait l'intérieur d'un vaisseau, les différentes parties qu'il peut y avoir dedans. Voilà, c'est comme si en plus c'est une ressource gratuite. Ça se trouve sur Drive-Thru assez facilement, quoi. Voilà.
Bon, ben voilà, on va passer sur la partie 2. Donc cette fois, on va parler des planètes.